Radio Campus Lille, 19h.
L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 227e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. C'est le début de la 12e saison, c'est la reprise après quelques mois de vacances. Et pourquoi on reprend aussi tard? Me poseriez-vous la question? C'est tout simplement parce que je prends mes vacances au mois de septembre. Voilà.
Mais du coup, pourquoi on arrête pendant l'été?
Pourquoi on arrête pendant l'été? Parce que c'est l'été. Autre question, Pierre.
Non, c'est bon.
On a quand même 3 mois d'arriéré d'actualité à présenter. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire un passage en revue. On va quand même s'intéresser à ce qui s'est passé ces dernières semaines. Pierre...
On va faire un best-of.
Ouais. On va faire, c'est ça, le best-of.
Le max best-of plus.
On va commencer par la sécurité de la vie privée et Microsoft qui connaissait une faille sur son logiciel Exchange, hein, donc son serveur de mail.
De groupware, ouais, groupware on dit, puisque ça fait mail, calendrier et deux, trois autres trucs. Quoi.
Un peu comme c'est... Lotus.
Ouais, ou comme la poste qui fait le courrier des calendriers. Et donc, oui, les
mais
jeux
y a pas de
chatons
sur Exchange.
Voilà, les blagues ne s'améliorent pas. Hein, c'est une promesse constante depuis la première saison. Donc, on fait attention à ça. On maintient notre niveau. Donc,
et rappelons également, c'est vrai qu'on l'appelle sur IRC. Nous avons un site internet, je vous jure. C'est...
Oui, c'est la nouveauté de l'année.
On est passé au web. C'est une technologie émergente. Enfin, on a appris toutes les possibilités que ça pouvait avoir. Donc, le site internet ecodegnou.org et un nouveau flux de podcast. J'en profite pour remercier Ludovic Grossard hein, qui a hébergé le podcast de l'émission pendant tant d'années d'ailleurs. Et tout à fait invité à continuer. Notre émission, elle est sous licence Creative Commons, by ISA, attribution share alike. Donc, vous avez tout à fait le droit de diffuser, d'héberger vous-même les numéros de l'émission. Donc, ecodegnou.org pour le nouveau site et ecodegnou.org/feed/podcast si vous voulez le flux directement pour le mettre dans votre lecteur de podcast. Pierre, excuse-moi, je te laisse reprendre cette actualité.
Oui, donc Microsoft, là c'est une petite blagounette, il y a 5 ans, un chercheur avait signalé une faille de sécurité à Microsoft, et puis ben, ils l'ont pas corrigée. Et puis ben, du coup, là, la faille a été entre guillemets redécouverte récemment, et puis c'était ben, non, on n'a pas corrigé, parce qu'en fait, ben, c'est une faille dans les protocoles, et du coup, ben, ça casserait certains vieux logiciels, et du coup, ben, plutôt que de corriger la faille proprement et de devoir communiquer avec les clients, Microsoft avait fait tapis, la poussière. Le tapis, la faille est sous le tapis, il n'y a pas de problème. Et ils avaient dit à l'époque, non, c'est pas une faille. L'utilisateur doit faire attention à ce qu'il fait. À partir du moment où il a eu un avertissement avant, c'est pas nous. C'est pas nous. Voilà, c'est cadeau. Cadeau, c'est petit cadeau de rentrée de la part de Microsoft, ça fait toujours plaisir.
Un petit rappel de l'ANSSI, l'Agence Nationale de la Sûreté des Systèmes d'Information, donc qui a pour mission première d'assurer donc la partie SSI des infrastructures de l'État, hein, des agences gouvernementales, enfin, de tout ce qui est public de manière générale, mais qui a également une mission presque je dirais de service public qui est d'aider les Français, les entreprises françaises à se protéger, à protéger son infrastructure informatique et ses données. Et donc l'ANSSI publie donc des référentiels, des guides de bonnes pratiques pour différents logiciels, Windows, Linux, Firefox, pour beaucoup de logiciels utilisés professionnellement, mais aussi une mission auprès du grand public. Et l'ANSSI veut particulièrement communiquer sur la protection des mots de passe. Et règle numéro 1, ne les écrivez pas sur un post-it. Oui, et tous ceux qui travaillent un minimum d'entreprise et qui ne sont pas encore passés au télétravail et qui fréquentent des entreprises où il n'y a pas que des informaticiens ou des gens qui travaillent dans le métier, se rend compte que c'est quand même très courant. Alors, parfois, le mot de passe sur des post-it, hein. J'ai déjà vu des tableaux affichés en grand à côté de l'écran d'ordinateur avec le calendrier des renouvellements de mots de passe.
Ben oui, voilà, c'est beaucoup plus intéressant, le calendrier des mots de passe. Et en fait, c'est le petit complément que je voudrais apporter par rapport à cette information, parce que oui, l'ANSSI a raison, arrêtez d'écrire les mots de passe sur des post-it, c'est faut pas le faire. D'ailleurs, petite précision, c'est pas seulement à but éducatif, c'est pas pour le bien de tout le monde, c'est parce que ça peut être un vrai danger pour la société entière si les mots de passe sont faibles, parce que enfin, si les mots de passe sont faibles, si les mots de passe sont exposés à tout le monde, si les entreprises sont facilement piratables, parce que si quelqu'un pirate, je sais pas, le garagiste du coin, c'est pas grave. Mais derrière, ça peut être des hôpitaux, ça peut être des administrations, ça peut être des entreprises majeures qui se font pirater pour des sottises comme ça, ou ça peut être Chantal ou Gérard de la Compta qui ont laissé le mot de passe traîner, et puis avec le mot de passe, quelqu'un arrive à détourner 10, 20, 50 millions d'euros et à s'en servir à des fins malveillantes. Donc il y a une vraie importance là-dessus. Et donc l'ANSSI fait un simple rappel, écrire un mot de passe sur un post-it, c'est une bêtise. J'aurais dû relire le rapport parce que je ne me souviens plus le mot exact qui était écrit dedans.
Une bêtise qui est très répandue, ça oui. Pose quand même une question, c'est que ça peut pas être, on ne peut pas faire porter le chapeau la faute uniquement à l'utilisateur. Si c'est si répandu, c'est qu'il y a un problème en amont, pas uniquement sensibilisation, mais j'irais dans la manière dont est faite la sécurité informatique. Alors, il y a la fameuse biométrie, hein, donc, qui était. Alors, on en parle moins, mais il y a 10-15 ans, c'était de la martingale pour justement éviter les mots de passe. Pourquoi aussi on écrit les mots de passe? Et même, je dirais, les responsables de l'ANSSI et les gens spécialisés dans la sécurité se sont rendus compte que demander aux gens de pondre un mot de passe par service, rien qu'en entreprise, hein, moi, au boulot, j'ai quoi? J'ai 4-5 mots de passe. Chacun avec une politique demandant 8, 10, 15 caractères, avec des caractères alphanumériques, avec des caractères spéciaux, avec des majuscules, minuscules, on ne peut pas tout retenir. Alors, il y a effectivement, si on pose cette question, on va tout de suite nous répondre oui, mais il y a les portefeuilles de mots de passe.
Ah, il faut utiliser un portefeuille de mots de passe.
Mais pourquoi ce n'est pas aussi évident? Pourquoi ce n'est pas aussi répandu?
Par manque d'informations, par manque de connaissances, et parce qu'il y a des systèmes qui sont débiles. Et en fait, il y a des règles de mots de passe qui sont obsolètes maintenant, parce que tu as parlé, Alexandre, du calendrier des mots de passe. C'est mal, c'est affreux d'écrire des mots de passe sur un calendrier. Mais en fait, pourquoi est-ce que les gens font ça? Parce que les gens ne sont pas des machines. Les gens ne peuvent pas mémoriser... Mettons, ils utilisent 20 services dans leur entreprise, ce qui n'est pas impossible. Ils utilisent 20 services, ils ont 20 services qui leur demandent de changer de mot de passe tous les 2 mois. Donc sur l'année, on est à 120 mots de passe différents à retenir. C'est impossible. On ne peut pas travailler comme ça. C'est mal. En fait, on demande, pour identifier un humain, on lui demande de faire quelque chose que seule une machine peut faire correctement.
Parce qu'actuellement, je vois 2 moyens actuellement qui sont utilisés pour renforcer la sécurité, soit utiliser la biométrie, soit emmerder les gens. Les seuls moyens qu'on a trouvé pour le moment pour faire respecter aux gens au maximum la politique de sécurité, c'est les emmerder.
Non, sinon il y a Kerberos, hein, qui marche très bien en entreprise.
Mais pour l'inciter à le faire.
Ah non, Kerberos, ça marche très bien. En fait, tu t'identifies une seule fois sur ta machine, tu as un seul mot de passe à retenir pour tout. Ça marche très bien, mais par contre, à déployer avec la mode du cloud, c'est devenu impossible. C'est ce qu'on m'a répondu la dernière fois, hein, quand j'avais suggéré ça en entreprise. Mais les mots de passe sont un problème. Et de toute façon, clairement, faire un bon mot de passe, je suis désolé, vous n'y arriverez pas. Moi, ce que je recommande à l'utilisateur lambda qui n'a vraiment pas envie de se prendre la tête, mettre un vrai mot de passe à l'ouverture de la session Firefox. Donc ça, c'est dans les préférences. Je ne sais plus comment ils appellent ça en français. J'ai un Firefox sous la main. Je vais aller voir dans les paramètres. Mais dans les paramètres de Firefox, normalement, on peut définir de mémoire un mot. Voilà, ça s'appelle un mot de passe principal. Vous définissez un mot de passe principal et à chaque fois que vous voulez remplir un formulaire sur Internet ou créer un compte, En fait, Firefox a cette option de générer un mot de passe aléatoirement et de l'enregistrer pour vous. Au moins, ça réglera le problème pour tous les sites web. Quand vous allez sur un site, eh bien, il suffit juste que vous ayez votre session sur votre ordinateur et vous aurez votre mot de passe et votre mot de passe sera différent sur chaque site et tout sera bien et vous n'aurez pas à les écrire sur des mots de passe et de toute façon vous ne pourrez pas les écrire sur des mots de passe parce que ce sera impossible. Mais aujourd'hui, le problème du mot de passe, il est à la fois logiciel, y a pas de les solutions ne sont pas suffisamment simples ou pas suffisamment mises en avant, ou pire, les solutions sont bloquées par des sites web et en fait ça découle de la deuxième source de problème qui est dans les pratiques de sécurité, il y a des débilités qui ont été gravées dans le marbre et qui sont difficiles à faire sortir de la tête des mauvais décideurs en sécurité. Genre, la politique de rotation des mots de passe, c'est con. Ça ne protège en rien. C'est une mauvaise solution.
Vous voulez devenir admin sur un Windows. On va parler sécurité, même pas besoin de mot de passe. Brancher une souris Razer. J'avoue que l'exploit est tellement simple que je me demande comment quelqu'un n'y avait pas pensé avant.
Oui,
enfin, c'est simple quand on voit l'exploit.
Moi, je le trouve très rigolo celui-là et ça me permet de rappeler que la gestion des pilotes de périphériques sous Windows, ça a ses inconvénients. Hein, des petits ou ces très gros inconvénients. Alors que sous Linux, la même chose ne se produirait pas puisque le pilote doit être intégré au système ou n'est pas. Le problème est réglé. Et du coup, ce qui se passait jusqu'à la fin du mois d'août, ça a été révélé et corrigé à ce moment-là. Lorsqu'on branchait une souris de la marque Razer, alors il y a plein d'autres entreprises qui font des pilotes qui ont les mêmes failles. Hein. Là, l'exemple a été pris sur Razer. On branche la souris. L'ordinateur, il dit « j'ai pas de pilote spécifique pour cette souris. Attendez une seconde, je vais le chercher sur Windows Update. » Automatiquement, sans avoir besoin d'être administrateur. Ce que je trouve déjà relativement large comme cadeau fait à l'attaquant. Et donc, ça lance le programme d'installation. Et sauf que dans le programme d'installation, on pouvait faire à un endroit, on pouvait faire clic droit et ouvrir un shell dans ce dossier. Et automatiquement, ça nous ouvrait un accès en administrateur sur la machine. Cadeau. Aucune manipulation technique complexe requise. Et il suffisait de savoir brancher une souris et savoir où cliquer derrière.
On passe de Microsoft à Apple. Avec Apple qui a une idée qui, pour le bien de l'humanité, veut installer une backdoor.
Oui, alors en plus, ça me fait marrer parce qu'on en a parlé début août, lorsque ça s'est produit, et on n'en reparle plus, et j'ai peur que du coup, en fait, ça soit en train d'être mis en place, et puis c'est pas possible. Ah, c'est bon, un mois plus tard, c'est oublié, c'est bon, c'est en place. En fait, Apple, depuis un certain nombre d'années, depuis qu'ils sont en concurrence frontale avec Google, Apple utilise l'argument « Oui, nous, on protège la vie privée, on protège vos données, regardez, tout est chiffré, tout est protégé, aucun risque, vos données sont en sécurité chez nous, sur iCloud et sur iMessage et je sais pas quoi. » Et là, Apple a dit récemment « on va faire quelque chose, on va scanner le contenu des images pour être certain que les gens profitent pas de nos fonctionnalités pour héberger du contenu pédopornographique. » Bon, déjà, en plus, c'est du contenu que les gens ont pris en photo ont récupéré sur leur appareil eux-mêmes. Et en plus, du coup, derrière, c'est parce que c'est pas des hébergements qu'ils fournissent. Hein. C'est vraiment si vous avez ça sur votre machine personnelle. Donc c'est pas le fait de le diffuser, c'est le fait de l'avoir, ce qui déjà en soi est illégal. Mais là, c'est Apple qui du coup a dit « Ok, du coup ce qui se passe, c'est que on va faire des signatures des images grâce à un système d'intelligence artificielle. » Parce que toujours, quand on veut faire quelque chose, il faut dire qu'il y a de l'intelligence artificielle, c'est comme ça que ça passe, aujourd'hui en tout cas. Et donc, on va faire des signatures des images et quand on va reconnaître que c'est l'image que l'image a la même signature qu'une image dans une base de données de contenu pédopornographique, ça va lever une alerte, et là, il y a quelqu'un qui va vérifier le contenu avant de le signaler à la police. Du coup,
déjà, bon courage à la personne qui va devoir regarder le contenu.
Oui, tout à fait. Surtout que la personne en question, à mon avis, ne va pas être payée des milliers et des cents. Hein, ça va être salaire de misère délocalisé.
Mais il y a un vrai problème, hein, c'est avec les modérateurs qui doivent se
On en a déjà parlé au moins une fois.
Qui doivent se coltiner des images forcément assez, assez dures régulièrement et que bah, d'un point de vue psychologique, c'est quand même pas évident. Donc là, actuellement, bon, bah là, ils proposent effectivement pour une cause pour laquelle bah, on peut pas trop avoir de, je dirais de réticence. Ensuite,
mais
bon,
évidemment, bah, mais oui, c'est toujours
c'est, la... c'est pareil avec le fichier des empreintes génétiques, ce genre de choses.
Oui, ça a toujours été la même chose.
Maintenant, un contexte, je sais pas, collaboration, Apple serait sommé par un régime pas très démocratique de je sais
la
pas,
Chine, de, ouais, Biélorussie.
Je sais pas,
Russie tout court.
Peut-on imaginer que ça pourrait être utilisé pour reconnaître des manifestants, par exemple?
Alors là, en l'occurrence, la technologie qu'ils vont utiliser, c'est pour reconnaître une image complète. C'est pas pour essayer d'analyser un morceau d'image. Mais du coup, ce qui est génial en plus, c'est que les gens sont amusés. Parce qu'on a ils avaient donné des accès pour tester les générations de signatures, enfin pour d'empreintes d'image pour pouvoir faire des comparaisons. Les gens sont amusés à créer des faux positifs, donc deux images qui n'ont rien à voir et qui ont la même signature, ou une image, et puis ils font une modification légère, genre une rotation de 1 ou 2 degrés de l'image, pouf, la signature a complètement changé.
Attends, c'est un peu le principe d'une somme de hachage.
C'est pas une somme de hachage, justement, c'est une signature un peu plus évoluée pour essayer
d'accord.
D'éviter...
Ah oui, donc il y a une intelligence dans, leur, entre guillemets, dans la signature. C'est pas un bête MD5
non,
où,
c'est,
où
ça,
on
ça,
change
ça, ça
un bit, et d'accord.
Ça serait trop simple, parce que des champs libres dans les images, il y en a plein. Mais là, non. C'est, en fait, la fonctionnalité ne marche pas bien, en plus. Enfin, ne marche pas bien. Du coup, c'est... L'implémentation, les gens ont pu tester et dire, bah non, mais c'est pas bon. Et en plus, bah, derrière, oui, c'est une belle pente... c'est un bon boulevard pour aller vers des fonctionnalités de surveillance pour des États, ou que sais-je, en termes d'espionnage. C'est une bonne direction qu'ils prennent, là.
On repart en France et on va reparler de l'État français. Donc le directeur interministériel du numérique interdit désormais les administrations de passer à Windows, à Office 365, après avoir on va dire, encouragé la migration vers le cloud. On s'est rendu compte que pousser à héberger des données statiques dans un cloud, même un cloud avec des garanties, normalement c'est un peu le principe hein, quand vous avez un contrat professionnel avec voilà, Google, Microsoft pour l'hébergement de données, effectivement normalement ils ne sont pas censés les revendre derrière pour faire de l'audience publicitaire hein. Mais bon, vous êtes quand même soumis à une entreprise elle-même soumise aux lois d'un État étranger et pour des données stratégiques, ça pourrait donc poser problème.
Mais en particulier, le
la prise de conscience est quand même salutaire, on peut dire assez tardive. Je propose que l'on écoute un premier morceau de musique, le premier de la saison, ça va être Squirrel Lover. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6, campusil.com et la radio numérique terrestre.
Ride it, oh, to me and down to, oh, we were yesterday.
C'était Squirrelow Lover. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, campusil.com et la radio numérique terrestre. C'est la deuxième partie des actualités et on va parler un petit peu d'Internet. Et on va parler d'accès à Internet et on va parler d'accès à Internet aux Pays-Bas où une loi permet désormais et oblige les fournisseurs d'accès à permettre à leurs abonnés de ne pas louer le modem routeur livré avec leur abonnement, mais d'utiliser le leur. Bon, quand même pour le commun des mortels, ça reste quand même plus simple d'utiliser celui fourni par le FAI, mais ça reste une possibilité pour les utilisateurs un petit peu plus avancés, ceux qui veulent une configuration réseau plus poussée.
Ou pour ne pas gaspiller du matériel.
Ou pour ne pas... gaspiller du matériel. Il faut déjà avoir un modem routeur DSL chez soi, ce qui n'est pas forcément.
Bah oui, mais sauf qu'une fois que tu as une connexion chez quelqu'un, au bout de 5 ans, tu crois que le modem, ils le remettent en location derrière ?
Oui, je crois que ça se fait.
Alors,
je sais que chez mon FAI, ça se fait le reconditionner. Oui.
Ah non, mais on peut donner des noms. Hein. Chez Orange, par exemple, ça se fait en reconditionnant en offre chez Soch, notamment pour les plus vieilles Livebox. On les recycle en les mettant sur les offres.
Je sais que Free,
gamme.
Notamment, avait recyclé ses V5 en cristal, je crois.
Tout à fait, il y a du recyclage.
Et je crois que même les V6, ils les remettent quand même sur le circuit. Non,
pas toutes. Enfin, ils ne peuvent pas tout mettre.
Surtout parce que le lecteur Blu-ray est mort au bout de 3 semaines.
Ben voilà, et en fait, il y a quand même pas mal de pertes. Et dans l'eau aussi, tu te retrouves... Alors, c'est moins le cas avec les deux opérateurs qu'on a cités là. On pourrait très bien parler aussi de l'opérateur au carré rouge dont la box est réputée pour servir de chauffage électrique. Et là, ça serait cool de pouvoir mettre autre chose qu'un chauffage électrique en box. Il y a plein de problèmes liés à ça. Il y a aussi... est-ce que tu fais confiance à ton FAI pour faire toutes les mises à jour de sécurité du système de ton routeur ? Est-ce que tu lui fais vraiment confiance sur ça ?
Je sais qu'il met à jour la partie firmware au moins pour tout ce qui est service multimédia de télévision. Après, effectivement, je ne suis pas le changelog de ce qui est modifié sur mon routeur.
Non, mais c'est un vrai problème. Alors,
mais après, ça reste l'utilisateur avancé, parce que bon, le monsieur Tout-Monde ne va pas mettre à jour le firmware, la iOS de son routeur de la marque que je ne citerai pas.
Le cheat-sheet, pas de marque.
Ouais, voilà. C'est pas que c'est compliqué à faire, c'est juste que... au moins, avec le FAI, il y a une procédure automatique.
Oui, mais la procédure du FAI a un coût environnemental et un coût financier qu'on
peut... Vaut mieux une procédure imparfaite, mais appliquée, qu'une procédure plus efficiente, mais qui ne serait pas appliquée, sauf par les admins réseau qui veulent utiliser leur box personnalisée chez eux, enfin leur routeur personnalisé chez eux.
L'idée de cette loi, qui est louable, c'est de donner le choix. Là, aujourd'hui, toutes les personnes avancées n'ont pas le choix. Parce que tu peux avoir même des réseaux qui disent « Ah non, c'est pas la box du FAI, la connexion ne marche pas. » T'as des restrictions, t'as des interdictions sur certains. T'es obligé d'avoir la box du FAI qui ne sert à rien, qui est juste là en intermédiaire entre la connexion et ton vrai équipement réseau.
D'ailleurs, Pierre, on connaît une entreprise qui a fourni un abonnement, qui s'est lancé dans le marché de l'abonnement sans box. On va dire que c'est eu un succès commercial éclatant.
Ouais, en même temps, c'est une entreprise qui ne sait pas vendre aux particuliers. Hein, c'est pas un bon exemple. Franchement, j'ai pas le droit de dire du mal. On m'a déjà dit qu'il ne faut pas que je dise du mal des gens. Mais c'est des branquignoles, c'est tout. Ils sont connus pour ça. Du coup, on passe à la suite. Autre sujet.
On passe à la suite chez Facebook. Tout le monde est égal.
Oh, il y en a plein sur
Tous
Facebook.
Tous les utilisateurs de Facebook sont égaux, mais pour paraphraser George Orwell, certains sont plus égaux que les autres.
Tout à fait. Alors, il y a à peu près sur Facebook 6 millions d'utilisateurs qui sont exemptés des règles de modération. Et donc, en plus, j'adore les exemples qui sont donnés parce qu'ils sont magnifiques. Hein. Bon, après, moi, c'est des gens que je connais pas. Donc, Neymar, donc un footballeur a priori, qui a pu publier des photos nues d'une femme qui l'accusait de viol.
Ah, j'étais pas au courant. Pourtant, je connais le monsieur qui est quand même, faut de l'air très connu, Pierre.
Bah, je connais pas. Enfin, j'ai déjà vu passer sur Le Monde ou autre, mais.
Oui, tu vois, c'est quand même.
J'en ai à foutre, quoi.
Oui, enfin, bref. Non,
il tape dans la baballe s'il veut, mais par contre, publier des photos d'une personne qu'il accuse de viol et des photos de la personne en question nue. C'est un peu dégueulasse et normalement ça sur Facebook, sur Facebook vous pouvez tenter de publier une image du tableau La liberté guidant le peuple, vous allez vous faire censurer tout de suite.
Là, tu parles pas de l'origine du monde, là c'est...
Ah non, mais non, faut pas déconner, là c'est non. Hein. Alors que là, ça passe, y a pas de problème. Donc, je l'ai trouvée rigolote celle-là. Après, on en a eu d'autres bien rigolotes sur Facebook cet été.
Parce que ça ne viole pas que les conditions d'utilisation de Facebook, ça viole également la loi française.
Ah oui, non, mais c'est fun. Mais après, donc, du coup, on a aussi Facebook qui a violé ses promesses vis-à-vis des chercheurs. Donc, Facebook a reconnu son erreur et s'est excusé auprès d'une centaine de chercheurs universitaires qui travaillent. Donc, c'est depuis le scandale de Cambridge Analytica en 2018. Ils travaillent sur l'impact des réseaux sociaux sur les élections et la démocratie. Et, par accident, Facebook a exclu des données d'utilisateurs américains qui n'avait aucune tendance politique détectable. Et donc, c'est un groupe qui représentait la moitié de tous les utilisateurs de Facebook aux États-Unis. Et du coup, ben, l'ensemble de données que Facebook avait partagées aux chercheurs était défectueux. Oh ben ça alors, c'est dommage. On l'a pas fait exprès. C'est con. Ah pardon. Mais bon, heureusement, il y a des points sur lesquels Facebook mène des recherches, même en interne. Ça, on va le reconnaître, Facebook fait un formidable travail pour étudier l'impact social de son réseau. Et donc, ils ont notamment étudié l'impact d'Instagram sur les adolescents et adolescentes. Et Instagram, ça marche vachement bien. Disons qu'il n'y a aucun problème, c'est même trop cool parce que ça développe le lien social, vous savez. Donc ça a été la version officielle, hein. C'est même en interne, ils disaient ça. Parce que quand ils ont fait l'étude, ils se sont rendus compte que ça poussait au suicide, que ça poussait à des comportements toxiques chez les adolescents, adolescentes. Et du coup, ça, on va pas le dire. Donc là, ils viennent de mettre un frein au développement de Instagram for Kids. Ah bon ?
C'est un programme Instagram for Kids.
Ah bon ? Vous êtes rendu compte ? Parce que du coup, là, ça s'est su, l'étude interne a fuité, et du coup, ça s'est un peu su qu'ils s'étaient légèrement assis dessus.
Instagram, c'est justement... Enfin, les réseaux sociaux, voilà, pour des personnes qui n'ont pas encore forcément développé tout leur esprit critique, qui sont encore vulnérables. Enfin, je ne dis pas que les adolescents... Je me joins pas au concert des réacs sur le mode « les jeunes sont des idiots », mais forcément, à un âge où... Surtout l'adolescence, où... avoir des faiblesses, des vulnérabilités là où ça reste dans une bulle. Alors, pas attention, hein, l'école, le collège, le lycée sont aussi connus pour être des lieux de harcèlement, donc pas forcément là où ça existait, mais dans une communauté restreinte, ce genre de comportement peut désormais être partagé de manière beaucoup plus large avec des dégâts beaucoup plus importants. Et Internet, c'est un moyen de communiquer, donc ça permet de communiquer plus largement. Tu as la connaissance, la poésie, mais également la désinformation, le harcèlement, et tout plein de choses pas forcément très reluisantes.
Allez, une dernière sur Facebook ?
Une dernière sur
Allez.
Facebook.
Toujours dans les relations de Facebook avec les chercheurs, donc il y a des chercheurs qui étudiaient les publicités ciblées sur Facebook, et... Ils ont publié un communiqué le 3 août, en même temps qu'ils supprimaient les comptes de certains chercheurs qui étudient donc les publicités ciblées. Ils ont publié un communiqué en disant « La recherche ne peut pas être une excuse pour mettre en danger la vie privée. » C'est... Oh, et les chercheurs en question... Non, parce que ils veulent accéder aux données des utilisateurs sans respecter nos termes et conditions d'utilisation, donc du coup on va les bloquer. Et en fait, les chercheurs en question ont dit « Mais en fait, vous nous empêchez juste de faire notre travail. » C'est comme ça, c'est cadeau. C'est tout le travail que faisaient les chercheurs sur... Et en plus, dans l'eau, il y a des impacts sur les élections, évidemment. Hein. Mais non, s'il vous plaît, attention. Hein. Attention.
Un chiffre qui ne sera pas surprenant et qui va une fois de plus illustrer la concentration des acteurs du web actuellement, c'est que 50% du trafic en France sur Internet, sur le web, concerne Netflix, Google, Facebook et Akamai. Donc bon, Netflix, ça ne surprendra pas grand monde vu la popularité du service et le fait que ce soit un service de vidéo à la demande, donc forcément, ça tire du débit.
Pareil pour Google et YouTube.
Google, voilà. YouTube, c'est vrai que... On pense Google, on pense moteur de recherche, mais YouTube, forcément, au niveau débit, c'est beaucoup. Facebook, il y a aussi pas mal de partage de vidéos, hein, de plus en plus, sur Facebook. Et Akamai, qui est une espèce de service de cache, proxy cache pour les sites à forte fréquentation, donc qui permet d'épargner un petit peu la charge en interne. Et, donc, il y a beaucoup de clientèle, les sites de presse, notamment, je crois que Le Monde utilisait Akamai, forcément.
Tout le monde de l'expo... c'est rarement visible directement. Hein. Il faut chercher pour vérifier qui utilise Akamai ou non. Mais ça montre aussi à quel point, du coup, on en a déjà parlé l'année dernière. C'est juste que on a un beau chiffre à mettre sur le fait que le web, qui est censé être décentralisé, résister à une attaque nucléaire, etc., là, maintenant, il est centralisé dans les mains de quelques acteurs. Et dans le cas de la France, la moitié du trafic est entre les mains de 4 acteurs seulement. Ça craint.
Alors quand un site internet, Pierre, quelqu'un veut faire parler de lui en proférant des propos choquants, racistes, antisémites, oui, c'est la mode, hein. Maintenant, ça fait même des meetings à Lille et après les partisans ils vont agresser des gens dans les bars, t'étais pas au courant. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que, vous allez crier sur tous les toits ? Surtout, n'allez pas sur ce site internet. Là, je vous donne l'URL du site à pas voir. Surtout, faut pas en parler. Hein. Y en a beaucoup, c'est comme ça qu'il faut.
Oui.
Parmi eux, quelqu'un qui aime particulièrement faire remarquer, montrer qu'il communique.
Bon, notre GG national.
C'est un politique. Mais là, il y a quand même en plus quelqu'un qui veut montrer qu'il agit. C'est le ministre de l'Intérieur, le regrettable Gérald Darmanin.
Tout à fait. Donc il a publié un petit message.
Qui pourtant est quand même responsable via son ministère de... Enfin, la plateforme ne fait pas responsable de la plateforme, mais il est quand même responsable de l'administration qui traite la plateforme Pharos, qui justement sert à signaler ce genre de site.
Tout à fait. Donc l'histoire complète, c'est que donc un site antisémite, ces crétins avaient fait une liste de personnes juives en position de pouvoir en politique, culture, économie. Donc voilà, les bons vieux complots antisémites d'il y a deux siècles, mais d'encore aujourd'hui. Et du coup, quelqu'un avait signalé ça à Gérald Darmanin. Le site en question avait genre 1000, 2000 personnes sur Twitter qui suivaient. Le site n'était pas connu. Et Gérald Darmanin, plutôt que de dire, plutôt que de le signaler sur la plateforme Pharos pour faire fermer le site et engager des poursuites, Gérald Darmanin, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a envoyé un tweet pour dire « Ah, ce site est scandaleux, je signale, c'est fait au procureur pour que des poursuites soient engagées. » Ah ouais, et avec un bon lien vers le site.
Parce que monsieur le ministre de l'Intérieur doit montrer qu'il agit.
Oui, sauf que...
Non mais c'est le principe de politique, hein, surtout alors, avec ce type. Hein, faut montrer qu'on agit.
C'est une infraction ce qu'il a fait là aussi. Hein. Ben si, il a diffusé, même indirectement, il a diffusé des liens, il a fait la promotion de contenu haineux. Si, si.
Alors là...
Les lois qui sont passées, les lois qu'ils essayent de faire passer, interdisent de faire ce genre de choses. Alexandre, ça fait partie des lois dont on a parlé ces dernières années. À chaque fois, c'est juste publier un lien vers un site. Ah, t'es responsable de ton lien. Je suis désolé.
Après, je demande quand même une jurisprudence.
Oui, mais ouais, il n'y a pas de jurisprudence pour l'instant. Mais le GG vient de ne pas respecter les lois que eux-mêmes mettent en avant pour dire ah, il faut lutter contre les sites haineux. Et oui, a raison.
Oui, mais c'est le bien, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est pour dénoncer, monsieur.
Ah ben voilà, oui.
Vous n'allez pas remettre en question les intentions du ministre de l'Intérieur, monsieur.
On me dit qu'un juif se cache parmi nous.
Oui, alors les blagues de Desproges. Enfin, attention, c'était que le. Voilà. Voir un background Pierre Desproges quand même.
Oui, sinon, ça passe plus.
Ça peut ne pas passer, Pierre. On parlait d'antisémitisme, on va parler de pornographie.
Ouais, le sujet plus léger.
Le site OnlyFans, qui pourtant pour moi, enfin, je connaissais vaguement de nom parce que ça hébergeait pour moi des contenus de personnes qui pratiquent, on va dire, de travailleurs et travailleuses du sexe. Pour moi, c'était surtout pour ça que c'était connu. Après, je ne suis pas spécialiste en plateformes de réseaux sociaux, à part les plus connus. En tout cas, a failli interdire la pornographie. Bon, ça m'étonne, c'est leur principal fonds de commerce, mais bon, soit.
Oui.
Et pourquoi, Pierre, tu vas nous expliquer, et pourquoi c'est préoccupant ?
Ben, c'est préoccupant parce que, alors, c'est ce qui a failli se passer avec Pornhub l'année dernière, ou en tout cas la saison dernière, je ne sais plus à quel moment ça avait eu lieu. Ben, ce qui se passe, c'est que OnlyFans donc, dépend d'organismes bancaires pour pouvoir faire des transactions bancaires ou des achats par carte bancaire à nouveau. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que ben, les organismes bancaires et notamment Mastercard et Visa, entreprises américaines, ont commencé à dire « Oui, mais là, vous avez du contenu pornographique, on veut plus. Fermez. » Soit vous enlevez le contenu pornographique, soit on vous coupe les fonds.
On voit quand même que ce sont des entreprises bancaires qui font la loi à la place des États.
Alors, pour le coup, c'est du dérivé d'une loi américaine qui est passée. Mais du coup, Visa Mastercard, c'est
T'es quand même soumis à l'interprétation qu'une entreprise en fait.
Ah ben oui, c'est une interprétation d'une entreprise. Et alors, le sujet de la pornographie sur Internet, on va pas s'amuser à rentrer dedans, parce que déjà, ça pourrait prendre pas mal de temps, et il faut des compétences sur le sujet, etc. On pourrait s'amuser à essayer d'inviter des gens pour en parler, mais c'est pas le but même de notre émission. Mais le fait que là, ce soit une entreprise privée, en l'occurrence Mastercard ou Visa, qui ait le pouvoir de faire fermer toutes les plateformes légales pour en faire apparaître finalement des plateformes. Alors, ce que OnlyFans, le modèle... J'ai regardé un petit peu le modèle économique, en tout cas, ça me semble plutôt sain. Ils se font une partie sur l'argent qui est versé, mais sinon c'est reversé directement au créateur. Ils font des contrôles pour essayer d'éviter qu'il y ait des salopards qui fassent du trafic d'êtres humains au milieu pour récupérer les sous. Donc c'est plutôt, ça semble à peu près réglo. Ça pourrait être amélioré, toujours, mais ça semble à peu près réglo. Et là, ces entreprises-là, au final, vont juste pousser à la disparition de ce site, de ce type de site, pour forcer tout le monde à aller vers ben, du contenu bien plus irrespectueux de la vie humaine. Et tout ça parce que le puritanisme, certaines associations évangéliques ou certaines associations crétino-chrétiennes américaines ont décidé que non, c'est pas bien.
Merci Pierre, nous allons passer à des brefs logiciels. Après un second morceau de musique, nous allons écouter John Murphy, Better Days. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
It's time I let go. Let life take its own. If I could, I would. Yeah, if I could, I would. Oh, if I could, I would let go.
C'était John Rolfe, Better Days. Vous écoutez les Codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com. C'est la troisième partie des actualités. On va passer au bref logiciel et on va causer choix du navigateur dans Windows 11 ou de Guerlas. Firefox a décidé que lui-même, il allait pouvoir s'imposer comme navigateur par défaut. Non, mais franchement, il n'y a pas de raison.
Tout à fait. Alors, c'en est devenu assez ridicule là, à ce niveau-là. Microsoft a voilà, pour ceux qui ont raté les actualités là-dessus, Microsoft a annoncé Windows 11, voilà, il sort dans quelques jours ceci, cela, avec plein d'incompatibilités avec le matériel, hein, histoire que ce soit bien fun. Et Microsoft, dans le lot des changements, ils ont rendu plus compliqué le fait de déclarer un logiciel comme étant le navigateur par défaut. Mais attention, ils n'ont pas rendu plus compliqué, ils l'ont rendu plus compliqué de sa maman, c'est compliqué. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous êtes sur un Windows, vous lancez un navigateur pour la première fois. Par exemple, un Firefox, vous le lancez pour la première fois. Firefox vous dit, est-ce que vous voulez que Firefox soit votre navigateur par défaut? Oui, non. Cliquez ici pour mémoriser ce choix. Alors, on pourrait discuter assez longuement de l'impact que ça a en termes de sécurité. Ça, c'est un autre débat. Mais là, Microsoft, du coup, pour aider à la fois le problème de sécurité et parce que c'est plus drôle de rendre ça compliqué, ils ont rendu ça, mais hyper compliqué. C'est, au lieu de définir ça, parce que ça a été jusque dans Windows 10, dans le panneau de configuration, il me semble que tu as les applications par défaut où tu peux choisir de mettre tel navigateur par défaut. Là, maintenant, c'est devenu des configurations par protocole et c'est dans des écrans un peu plus cachés, plus loin. En fait, ça a fait gueuler tout le monde. Et les développeurs de Firefox, ils ont fait, on en a marre. Hein, ça fait chier. Du coup, désormais, pour mettre Firefox comme navigateur par défaut, ça va marcher comme partout ailleurs. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé comment ça marche sur notamment Edge. Ils ont fait le travail de reverse engineering, puis ils ont fait OK. Donc c'est ces appels-là qu'il faut faire sur le système. Il faut modifier tel élément dans le registre, etc. On le fait. Voilà, fin. Et ça m'attriste hein, que Firefox ait eu à faire ça. Puis en plus, d'un point de vue sécurité informatique, c'est pas une bonne solution. Ça perpétue le problème du bouton rendre par défaut qui est un vrai souci. On pourrait en parler, ça a un impact, c'est pas bon. Parce que n'importe quelle application qui tourne pourrait se mettre navigateur par défaut et intercepter toutes vos communications, c'est mauvais. Mais là, Microsoft a juste rendu ça complètement impossible pour les navigateurs. Pour l'instant, les autres navigateurs, donc les Google Chrome, Vivaldi, Opera, etc., n'ont pas encore suivi. On ne sait pas non plus comment va réagir Microsoft. Est-ce qu'ils vont rendre ça encore plus compliqué pour essayer de bloquer Firefox? Ou est-ce qu'ils vont abandonner et laisser Mozilla faire comme ça et espérer que les autres ne suivent pas? On ne sait pas trop, mais c'est une manœuvre assez dégueulasse de la part de Microsoft. Ça faisait longtemps qu'ils n'en avaient pas fait une comme ça.
Android, par contre, qui, je dirais, change en bien son comportement, enfin Google, hein, du coup, et passe en upstream first pour ses contributions au noyau.
Tout à fait. Alors, juste petit rappel, hein, Android a été annoncé en novembre 2007, donc 14 ans plus tard, ils ont annoncé enfin que le noyau Linux, c'est mieux d'y contribuer que de s'en servir juste comme truc où on pioche des éléments et puis après on fait notre tambouille de notre côté.
C'est bien d'avoir compris la
c'est bien,
logique du logiciel.
14 ans
libre.
Les mecs. Ça fait 14 ans qu'on vous
en
attend.
En même temps, c'était un petit projet émergent, quoi. Linux, assez peu connu. On ne sait pas trop ce que ça allait devenir.
Puis là, Android, ça a été fait par une petite start-up. Ils n'avaient pas les moyens de. Tu comprends c'est...
Bah, à la base, c'est vrai, non
ça, en 2007, quand ça a été annoncé, c'était déjà Google.
C'était déjà Google.
Bon. C'était Google en 2007 déjà, je crois. Attends, je vais vérifier l'historique. Pardon, c'est sponsor. Oh, excusez-moi. Android est développé par la Open Handset Alliance, qui est légèrement sponsorisé par Google. Excusez-moi, c'est pas Google directement, voyons. Non, mais enfin, faut pas se foutre de la gueule du monde, ils auraient pu dès le départ. Mais il était temps. Alors, le gros avantage, c'est que du coup, normalement, les futurs téléphones qui sortiront seront plus facilement convertis. Enfin, on pourra plus facilement installer un vrai système Linux dessus. Il y aura aussi plus de chances que, bah, à l'abandon par le fabricant, on puisse continuer à maintenir à jour le téléphone malgré l'absence du fabricant. C'est, il était temps. Accessoirement aussi, les fabricants pourront peut-être mettre moins de merde dedans.
En tout cas, on note quand même une nouvelle. C'est une démarche de Google qui va dans le bon sens. On parle de projet libre, de vrai projet libre. Debian 11 est sorti. Debian Bullseye, de son petit nom.
Tout à fait.
Un Debian qui est mieux.
C'est ça.
Qui est plus à jour que celui d'avant.
Comme d'habitude, il y a...
Avec la mise à jour de vos logiciels libres préférés.
Voilà, votre du KDE, noyau, préféré, KDE, GNOME, XFCE. Il est tout est mis à jour, comme d'habitude. Donc, si vous cherchez une distribution qui ne bouge pas tous les deux mois, ben, n'hésitez pas, puisque ben, là, Debian, la prochaine sortira du coup vers 2023.
Et si vous voulez une distribution qui change toutes les semaines, vous pouvez utiliser Debian aussi, mais vous utilisez la branche testing.
Ou instable.
Si vous voulez que ça change tous les jours et que vous voulez le réparer tous les 3 jours.
Bon, après, non, c'est pas tous les 3 jours. Ça l'a été à une époque, mais là, c'est quand même assez, ça tient bien.
On retrouve la dégeekalisation après un nouveau morceau du nom. Pierre, tu voulais quand même.
Rapide. Il y en a une que je tiens absolument à signaler. C'est arrivé cet été. GitHub a annoncé Copilot. Ça a été annoncé à la fin du mois de juin. Je sais pas si je n'ai pas souvenir qu'on en ait parlé. Et c'est quand même assez important. GitHub a annoncé la fonctionnalité Copilot, qui est un logiciel qui permet aux gens de développer du code plus rapidement en pillant les logiciels libres hébergés chez GitHub. C'est magnifique, n'est-ce pas? Donc, GitHub, plateforme d'hébergement de logiciels, et ils ont entraîné une intelligence artificielle pour reconnaître tout du code qu'il y a un peu partout dans l'ensemble des projets. Et puis derrière, quand on commence à taper du code, le logiciel identifie « Ah, mais en fait, là, t'es en train de créer cette fonction, je l'ai déjà vu ailleurs, et ben je vais t'aider en reprenant du code tel qu'il est déjà utilisé ailleurs pour ce même type de fonction. »
Est-ce que c'est vraiment... Alors, oui, c'est que ça encourage la violation de licence. Que ça dépend
tu peux faire un copier-coller de code avec ça. Oui. Les démonstrations ont été faites.
Après, la responsabilité de la violation de licence, c'est celui qui va au final publier le logiciel en ne respectant pas la licence.
Sauf que GitHub ne te dit pas d'où vient le code. Donc ça entraîne de la violation de licence et ça, en plus, très rigolo, l'intelligence artificielle oublie un petit paramètre, c'est que 99% du code qui a été écrit sur Terre, c'est de la merde. Donc du coup, vous allez recopier de la merde. C'est pessimiste, mais honnêtement, c'est pas 99%, je pense, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont écrit de la merde. J'en fais partie, je le reconnais, j'ai déjà écrit de la merde, il n'y a pas de problème. Et du coup, s'amuser à recopier en aveugle sans vérifier vos sources...
Oui, enfin, ça n'a jamais été une bonne idée. Hein.
Non. Dans la presse écrite, certains le font, hein, 20 minutes, mais non, c'est de la merde, ça.
Alors, on ne confond pas recopier la merde et recopier des dépêches AFP. Enfin, bref, c'est encore... Nous allons écouter un troisième morceau de musique avant la dégeekalisation. Ce sera Forget the World, Man Out of Town. Vous écoutez les codes sur Radio Campus en 6,6, campusil.com et la radio numérique terrestre. She stands waiting for C'était Forget the World, Man Out of Town. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus en 6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous depuis 3 mois. Vous avez été odieusement privé, mais Pierre est là pour la dégeekalisation. Sujet du jour, Monsieur Pierre va donner son point de vue sur la critique de Lennart Pottering qui a donc critiqué le chiffrement du disque dur sous Linux. Pierre, tu as 6 minutes.
Super, ça va être court. Donc, Lennart Pottering, qui est assez connu pour avoir développé plusieurs composants majeurs des systèmes Linux modernes, donc notamment Pulse Audio, Systemd, pour ne citer que ces deux-là, il a tendance à prendre des positions assez extrêmes, mais toujours bien argumentées, toujours assez claires. Et là, il a publié une opinion sur le chiffrement des disques et l'authentification de la certification, on va dire, de la sécurité du démarrage du système sous Linux, en disant, grosso modo, hein, le too long don't read de son article, c'est « Linux supporte le chiffrement complet du disque et des technologies comme Secure Boot et le TPM depuis longtemps, mais la façon dont les distributions sont configurées ne sont pas sécurisées comme elles le devraient, et le sont même des fois franchement bizarrement. » En fait, aujourd'hui, vos données sont probablement plus en sécurité si elles sont stockées sur des machines récentes Chrome OS, Android, Windows ou Mac OS que sur des distributions Linux classiques. Moi, quand j'ai lu ça comme résumé, j'étais un peu mitigé. Il y a des points sur lesquels je suis d'accord, on pourrait faire mieux, mais il y a des points sur lesquels il y a une grosse faille dans son raisonnement qui me déplaît profondément. Donc déjà, pour expliquer un petit peu les deux problèmes... Donc, Lennart Pottering parle ici de deux soucis, l'authentification du démarrage, le chiffrement du disque. C'est-à-dire, l'authentification du démarrage, c'est certifier que ce que vous démarrez sur votre machine, quand vous appuyez sur le bouton ON de votre ordinateur, ça démarre le système que vous avez installé et pas le système que quelqu'un d'autre a installé sur votre machine en douce pendant que vous étiez en train de dormir ou que vous étiez au travail et que vous aviez laissé votre machine sans surveillance. Exemple typique d'attaque qui peut avoir lieu avec ça, ben c'est ce qu'a déjà fait la NSA contre différentes personnes. C'est des attaques assez courantes, on va dire, dans ce genre de milieu. Mais ce sont des attaques ciblées. Ou alors, plus rarement, ce sont des rootkits qui vont arriver sur votre machine et puis ben, là, vous vous ferez avoir. Ça, c'est le premier point. Et je suis d'accord, les distributions Linux aujourd'hui ne protègent pas suffisamment contre ça. Il y en a très peu qui mettent en avant Secure Boot ou autre parce que c'est une purge à configurer et à utiliser correctement. C'est une méga purge, c'est hyper compliqué. Et le deuxième élément de l'argumentation de Lennart Pottering, et là, celui-là, par contre, me gêne beaucoup, il explique que ben, le chiffrement de disque n'est pas suffisamment bien fait et pas suffisamment répandu pour protéger les machines. Il explique notamment, l'un de ses arguments, c'est que aujourd'hui, les distributions Linux, pour pouvoir chiffrer le disque dur, ça te demande au démarrage un mot de passe. Et il considère que ce n'est pas une bonne solution de sécurité, puisque ça force l'utilisateur, dans ce cas, c'est le cas par exemple sur ma machine, que ce soit ma machine personnelle ou professionnelle, j'allume la machine, elle me demande un premier mot de passe pour lire le contenu du disque dur, je tape le mot de passe, elle démarre, elle me demande un mot de passe utilisateur maintenant pour ouvrir ma session. Et le point de vue de Lennart Pottering là-dessus, c'est que ce mécanisme-là, le chiffrement complet du disque dur, devrait être assuré, lui, par la puce TPM au sein de la machine, et ensuite seulement le déchiffrement de données de l'utilisateur devrait être fait avec le mot de passe de l'utilisateur. Et dans ce cas, l'utilisateur serait le seul à pouvoir lire ces données, ce serait garanti, et la machine elle-même, ben, au final, le chiffrement... On vérifie que les données soit on chiffre le disque dur lui-même avec la puce TPM, soit on vérifie l'intégrité des données. Et vraiment, chiffrer les données du disque dur avec la puce TPM, c'est là où je mets un gros avertissement. Cette puce, c'est une petite puce sur la carte mère de la machine, ou c'est une fonctionnalité dans le processeur, pour chiffrer, déchiffrer des données. Mais ce qui se passe, c'est que si vous chiffrez des données avec ça, et que vous n'avez plus la puce, ben vous ne pouvez plus déchiffrer les données. Du coup, si vous chiffrez votre disque dur... et que votre chat renverse votre verre d'eau sur votre ordinateur et que la carte mère crame.
Donc vous liez en fait le disque dur à l'ordinateur.
Voilà, c'est la fonction, c'est le but. Mais c'est l'inconvénient.
C'est...
Et je trouve que l'article...
C'est le problème de la sécurité, c'est que en contrepartie un plus fort durcissement de la sécurité, c'est que ça apporte des contraintes.
Et du coup, je trouve que là-dessus, l'article de Lennart Pöttering est raté là-dessus, c'est qu'il y a un point qui n'est pas mis en avant, c'est que tout ça, tout ce qu'il décrit, ça ne sert à rien en l'état. Le but, c'est unique, c'est on ne peut pas parler de sécurité sans avoir défini contre quoi on veut se protéger. Parce que la sécurité, dans ce cas, c'est sans fin. On ne peut pas être en parfaite sécurité face à tout. C'est pas vrai, il y aura toujours des compromis, parce que sinon, si on veut être en sécurité, c'est facile, on débranche la machine. Et on la met dans un coffre-fort fermé, enterré dans un bunker, dans un abri antinucléaire. C'est pas vrai, du coup. On ne va pas jusque-là. Par exemple, ma machine, je le reconnais sans aucun problème, je ne suis pas en sécurité face à quelqu'un d'hyper compétent qui débarque chez moi, qui éteint la machine, qui fait une modification et qui la remet en état sans que moi je ne sois présent. Oui, ah, je le reconnais.
La question, c'est qui mettrait autant de moyens pour aller chercher l'ordinateur, des données sur l'ordinateur de Monsieur Pierre.
Voilà,
c'est qu'en général, si quelqu'un en est à ce point-là, c'est que tu as d'autres menaces que sur ton ordinateur.
C'est ça. Alors que par contre, mon ordinateur, si quelqu'un vole ma machine, mes données ne sont pas volées. Les données, vas-y, accroche-toi pour les retrouver. C'est contre ça que je me protège. J'ai défini le modèle d'attaque contre lequel je veux me protéger, c'est celui-là. C'est pas me protéger contre la CIA ou la NSA. Parce que je sais que c'est beaucoup trop chiant après pour moi. Et en fait, l'article de Lennart Pöttering là-dessus, je trouve que c'est la grosse faille de cet article, c'est qu'il ne définit pas contre quoi on veut se protéger. Et à chaque fois, c'est la première question.
Merci Pierre, c'était le 227e numéro de l'Écho des Gnous, le premier de cette 12e saison. Je rappelle que vous pouvez désormais retrouver nos épisodes sur echodesgnous.org, notre site, ainsi que sur notre podcast, notre nouveau flux. Bonne fin de week-end à tous, au revoir. On se retrouve dans quelques semaines pour l'Écho des Gnous 228. Au revoir à tous.
Bye bye. Tout de suite.